marchand de cercueils, Alexandre Pouchkine. Pour la quatrième fois, deux haridelles, attelées au corbillard sur lequel Adrien Prokhorov venait d'entasser les restes de ses frusques, firent le chemin de la Basmanaya à la Nikitskaya, où le marchand de cercueils emménageait. Adrien ferma son ancienne boutique, cloua sur la porte une pancarte, à vendre ou à louer, puis suivit à pied. En approchant de la petite maison jaune que depuis longtemps il guignait et qu'il venait enfin d'acquérir pour une somme rondelette, le vieux marchand s'étonna de ne se sentir pas plus de joie dans le cœur. Sur le seuil de sa nouvelle demeure, où tout était sans dessus-dessous, il se prit à regretter l'ancien taudis où, 18 ans durant, il avait fait régner un ordre parfait. Il tensa la lenteur de ses deux filles et de la servante, puis se mit à les aider. Bientôt, tout fut en place. L'armoire avec les icônes, le buffet avec la vaisselle, la table, le divan et le lit dans la chambre du fond, les productions du maître, cercueils de toutes couleurs et de toutes dimensions, ainsi que les bahuts contenant les flambeaux, les chapeaux et les manteaux de deuil, prirent place dans la cuisine et dans le salon. Au-dessus de la porte cochère fut hissée l'enseigne. Elle présentait un amour dodu tenant en main un flambeau renversé. Et l'inscription « Ici, l'on vend et l'on garnit les cercueils naturels ou peints, on loue et on répare les cercueils usagés. » Les jeunes filles se retirèrent dans leur chambrette. Adrien fit le tour de sa demeure, s'assit près de la fenêtre et commanda le samovar. Tout lecteur éclairé sait que Shakespeare et Walter Scott présentent les fossoyeurs comme des gens hilares et facétieux, afin de frapper notre imagination par ce contraste. Le respect de la vérité nous retient de suivre leur exemple et nous force d'avouer que le caractère de notre marchand de cercueils répondait parfaitement à sa macabre profession. Adrien Prokhorov était le plus souvent sombre et pensif. Il ne rompait le silence que pour admonester ses filles lorsqu'il les surprenait musardant à la fenêtre et regardant passer les gens, ou pour surfaire le prix de ses cercueils devant ceux qui se désolaient, ou parfois se réjouissaient, d'en avoir besoin. Or, donc, assis à la fenêtre et buvant sa septième tasse de thé, Adrien, selon son habitude, ruminait de tristes réflexions. Il se remémorait cette averse qui, 8 jours plus tôt, près de la barrière de la ville, avait accueilli le cortège funèbre d'un brigadier retraité. Que de manteaux s'en étaient trouvés rétrécis, que de chapeaux déformés. Voici qu'il l'entraînerait à d'inévitables dépenses, car sa vieille réserve de vêtements funéraires était dans un état lamentable. Il comptait bien, il est vrai, se rattraper avec Triukhina, cette vieille marchande qui, depuis bientôt un an, n'en finissait pas de mourir. Mais c'est à Razgouliaï que Triukhina trépassait, et Prokhorov craignait que les héritiers, malgré leurs promesses, et plutôt que de venir de si loin le chercher, ne traitassent avec un entrepreneur du quartier. 3 coups frappés à la porte interrompirent soudain ses réflexions. « Qui est là ?» demanda Prokhorov. La porte s'ouvrit. Un homme, qu'on pouvait du premier coup d'œil reconnaître pour un artisan allemand, entra dans la chambre, s'approcha du marchand de cercueils et, d'un air joyeux, « Excusez-moi, aimable voisin, » dit-il avec cet accent allemand qui nous fera toujours rire, « excusez-moi de vous déranger, j'étais impatient de vous connaître. Je suis le cordonnier, je m'appelle Gottlieb Schulz et j'habite de l'autre côté de la rue, cette petite maison juste en face de vos fenêtres. Je fête demain mes noces d'argent et vous convie à venir dîner chez moi, avec vos filles, sans cérémonie. » L'invitation fut acceptée de bonne grâce. Le marchand de cercueils pria le cordonnier de s'asseoir et lui offrit une tasse de thé. La nature ouverte de Gottlieb Schultz permit vite à la conversation de devenir très cordiale. « Et comment vont les affaires de votre seigneurie ?» demanda Adrien. « Coussi coussa, » répondit Schultz. « Je n'ai du reste pas à me plaindre, encore que ma marchandise diffère en ceci de la vôtre. Qu'un vivant peut bien se passer de bottes, mais qu'un mort ne peut pas vivre sans cercueil. »« Ça, c'est vrai, » dit Adrien. « Un vivant qui n'a pas de quoi se payer des bottes peut bien, ne vous en déplaise, aller pieds nus. Mais le plus gueux des morts aura son cercueil, qu'il le paie ou non. » Ainsi, leur entretien se prolongea quelque temps encore. Puis, enfin, le cordonnier se leva et prit congé d'Adrien en renouvelant son invitation. Le lendemain, à midi sonnant, Prokhorov, avec ses filles, sortit de sa nouvelle maison par la porte de la cour et tous trois s'enfuirent chez leurs voisins. Dérogeant à l'habitude de nos romanciers d'aujourd'hui, je ne décrirai ni le caftan russe d'Adrien Prokhorov, ni les toilettes européennes d'Akulina et de Dounia. J'estime néanmoins qu'il n'est pas superflu de noter que les deux jeunes filles s'étaient coiffées de chapeaux jaunes et avaient chaussé des souliers rouges, ce qui ne leur arrivait que dans des circonstances solennelles. Le logement exigu du cordonnier était rempli de convives, pour la plupart des artisans allemands, accompagnés de leurs femmes et de leurs aides. En fait, de fonctionnaires russes, il n'y avait là qu'un sergent de ville, le finnois Jurko, qui, malgré sa modeste condition, avait su gagner la bienveillance particulière de notre hôte. Depuis 25 ans, il remplissait ses fonctions fidèlement et loyalement, tel le postillon de Pogorielski. L'incendie de l'an 12 en détruisant Moscou anéantit du même coup sa guérite jaune. Mais, aussitôt après l'expulsion de l'ennemi, surgit à la même place une nouvelle guérite. Celle-ci grise, avec des colonnes doriques blanches. Et Jurko reprit sa faction devant elle avec la hache et la cuirasse de drap gris. Presque tous les Allemands domiciliés près de la porte Nikitskaya connaissaient Jurko. Et même, il arrivait à certains d'entre eux de passer chez lui la nuit du dimanche au lundi. Adrien s'empressa de lier connaissance avec cet homme dont, tôt ou tard, on pouvait avoir besoin. Et lorsque les invités se mirent à table, il s'assit à côté de lui. Monsieur et Madame Schultz et leur fille Lottchen, demoiselle de 17 ans, tout en dînant avec